RMC. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Stéphane Manigold, il est restaurateur à Paris. Nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale, et Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Tiens, si on parlait de la légalisation du cannabis, ça fait longtemps, j'entends ça, encore. Mais oui, en fait, encore, pourquoi? Parce que le problème n'est toujours pas réglé. Exactement. La question politique n'a toujours pas été tranchée. Ou plutôt, si actuellement, c'est-à-dire que Gérald Darmanin et le président Macron sont résolument contre la légalisation, mais là, des sénateurs, eux, sont pour et ils le font savoir.
La prohibition, aujourd'hui, elle n'a pas démontré son efficacité, bien au contraire. On est dans l'impasse. Comme c'est un produit illicite, comment vous voulez faire une bonne politique de prévention sur un produit qui est interdit? Comment vous voulez savoir ce qui est vendu, la qualité de ce qui est vendu? Bien sûr, je trouve que c'est pas normal de se droguer. Mais c'est le constat. Comment cet argent qui va dans des réseaux mafieux peut bénéficier à la société? Il n'y a pas de bonne solution. La moins mauvaise solution, c'est de légaliser.
Voilà, la moins mauvaise des solutions, c'est de légaliser. Alors, vous voulez quelques chiffres? Chaque année, l'État français dépense 570 millions d'euros contre le cannabis. Vous prenez un billet de 10 euros, 7 euros vont à la répression, 2 à la justice, 1 euro à la prévention, les soins et la recherche. Le chiffre d'affaires du cannabis, alors là, c'est à la louche, hein, c'est à travers les saisies, les données police et douane, 1,2 milliard d'euros par an. Et ensuite, ce qu'on appelle le bénéfice, s'il n'y a pas de taxe derrière, c'est de l'ordre du milliard d'euros.
Mais du résultat net.
Ouais, mais qui reste essentiellement aux mains des réseaux, des mafieux, et pas des petites mains, ceux qui sont en bas. Donc aujourd'hui, 45% des Français se disent pour la légalisation du cannabis. 18 millions de Français disent avoir déjà consommé du cannabis et 1,5 million de Français en consomment régulièrement. C'est un produit, on le rappelle, illicite. Il génère des trafics qui provoquent des drames, des morts, des règlements de compte, qui empoisonnent la vie au quotidien. Et là, que ce soit Kaouter Ben Mohamed à Marseille ou Elina Dumont en tant qu'intervenante sociale, le savent précisément. Donc, est-ce que ces sénateurs ont raison de remettre les pieds dans le plat une fois de plus? En disant, on débat, il y a une proposition de loi et soyons courageux.
Exactement.
Faisons comme par exemple en Uruguay, au Canada, dans une quinzaine d'États américains, où on autorise le cannabis, où l'État prend des taxes, oui ou non,
la
pour
Suisse.
Ou contre. À vous d'en parler avec les GG au 32-16. Allez, go, Kaouter, pour ou contre?
Complètement pour, à 100%. Moi, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, je sais que c'est une drogue. Et au-delà des règlements de compte, des morts et de tous les drames qu'il y a autour, il y a aussi des effets physiologique sur les personnes qui fument, en particulier quand elles fument de plus en plus jeunes, et elles fument de plus en plus jeunes. Donc moi, quand sur la répartition des 10 euros, tu me dis qu'il y a 7 euros qui vont à la police, 2 à la justice et 1 à la prévention et au soin, je suis assez inquiète, parce que moi je vois des enfants aujourd'hui, et je ne le cautionne pas par contre, hein, mais qui se le procurent quand même, qui ont 14 ans, qui font leur joint comme ça dans la rue et qui fument toute la journée. Je considère qu'ils ont plus de cerveau, que toutes les neurones elles sont cramées. Donc ça peut paraître antagoniste parce que je dis je suis pour.
Oui,
non, parce qu'ils se le procurent quand même.
Je suis pour que nos gamins de 14 ans se crament les neurones, légalement.
Non. Je suis pour que dans la répartition, il n'y ait pas qu'un euro dans la prévention et dans les soins, et qu'on fasse de la vraie prévention dans les écoles, dès le collège. Mon fils, je l'avais raconté ici, en sixième, mon oncle est mort à la rentrée scolaire, un de mes oncles. Donc je rentre et je le laisse chez une amie. Il y a deux grands de troisième qui l'ont chopé par l'oreille. Pourtant, il est dans un très bon établissement. J'ai changé la carte scolaire, etc. Ils l'ont pris par l'oreille, ils lui ont dit, oh, viens là, tu as une bonne tête, viens nous vendre des sachets à 50 euros, c'est comme à la Castellane, tu vas te faire du fric. Donc j'ai failli démonter toute l'école, et en particulier ces dominos. Donc ça existe de partout dans tous les milieux sociaux.
Mais dans ce cas-là, est-ce que l'État doit abdiquer?
Non,
c'est quoi l'État d'après,
ne doit pas abdiquer.
Attends,
je dis qu'en fait...
Non,
j'ai pas fini. En fait, il y a une manne financière qui est énorme. Il y a des taxes qui sont pas payées, qui pourraient être une source de revenus pour l'État. Les gens continueront à fumer. Quand on me dit, c'est la première étape, après ça sera des drogues plus dures, je ne suis pas d'accord, parce que les gens qui fument du shit ne prennent pas de la coque. C'est deux consommations qui sont différentes.
Là, ma
c'est
cocotte,
tout.
Je peux te dire autre chose.
Oui,
moi,
mais toi, mais pas tout le monde. Je suis désolée.
Bon. Kaouter est pour la légalisation. Au moins, on prendra des taxes
financière.
Et on fera de la prévention.
Alors moi, je vais être honnête.
Pour ou contre?
Je suis très mitigée. franchement, j'ai envie de dire oui pour arrêter toutes ces guerres de territoire, qu'il y a des gamins qui meurent pour une barrette de shit. Bien sûr, j'ai envie de dire oui. Mais maintenant, moi, je te cache pas, tu le connais, tu le sais, Alain, suffisamment. Moi, maintenant, je parle même plus du shit. Moi, je suis au crack, moi. Tu vois? Ouais. Donc, et je peux t'assurer, tu sais très bien où je travaille. Je travaille à Lille. À Lille, c'est le bordel avec le crack. Même en Bretagne, il y en a. Porte d'Aubervilliers, Porte de la Villette, Porte de Pantin. Et ils fument de tout. Du shit, du crack, de l'héroïne, il y a de tout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai... Par contre, avec l'argent, là, il faut aller à fond dans la prévention. Si par les taxes.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait ce sénateur, comme c'est un produit qui est illégal, tu ne peux pas faire de prévention et de campagne de prévention
voilà,
pour
ce
un
que
produit
j'ai toujours, c'est pour ça.
Illégal.
Bon. Par contre, au
alors
Maroc...
C'est vrai qu'on
attends,
en parle ouvertement.
Et en mais... même temps, au Maroc, je l'ai noté parce qu'ils ont autorisé 3 provinces à cultiver du cannabis après avoir légalisé la culture de l'herbe dans un but médical et industriel. Donc eux...
Les
c'est
Pays-Bas
pas des... Non mais
Pays-Bas
d'accord, mais je voulais parler du Maroc parce que j'aime bien le Maroc. C'est... Et comment dire, et eux, on peut pas les traiter de mafieux puisque c'est autorisé.
Non mais
et on sait très bien qu'en France, quand même,
sur le territoire européen, il y a des pays qui l'ont légalisé et des boutiques, ça paye des taxes, ça, etc.
Ah oui,
c'est une économie.
Shop,
et ce n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème politique et économique et alors, hyper important.
D'après, attends, juste oui. Un truc. Après, je me tais. D'après les études,
compliqué. Hein bah, non mais t'as d'après, deux Stéphane.
D'après les études,
allez au bar.
Tous les pays où le cannabis a été légalisé. C'est pas pour ça que les gens qui n'en prenaient pas se sont mis à en prendre. Ça, c'est une vraie étude.
Alors, Stéphane Manigault, pour ou contre ?
Contre. Moi, je suis farouchement contre. C'est quoi l'étape d'après ? La cocaïne ? Bah, la cocaïne, ça te désinhibe, ça te donne plus d'énergie.
Chez les députés,
t'as les
ils en prennent pas mal, hein, je te le dis, moi.
T'es plus joyeux, ça te donne du pef. Bah oui, pourquoi ? Attends, je termine. Je t'ai pas coupé. Laisse-moi terminer. C'est quoi l'étape d'après ? Et puis, l'argument qui consiste à dire c'est parce que c'est illicite que les jeunes en prennent. Le protoxyde d'azote, tu le trouves sur Amazon. Ils se shootent la gueule avec du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est ce fameux gaz hilarant qui est en vente libre. Et nos gamins, aujourd'hui, sont en train de se défoncer au protoxyde d'azote. Donc nous expliquer que parce que c'est illicite, le cannabis, donc nos jeunes y vont, tu trouves du protoxyde d'azote qui grille la santé de nos mômes. Il y a des mômes qui meurent sur ce sujet. Et pourtant, c'est en vente libre. Donc le sujet qui consiste à dire, parce qu'on va le rendre licite, ce sera, on va lutter contre la consommation,
c'est
faux et archi faux. La Suisse a tranché comme ils savent faire, c'est-à-dire de façon très neutre. Tu l'as en distribution libre, sous soit médicament, traitement, soit comme de l'encens. C'est-à-dire que tu parfumes avec... voilà. Et tu as le droit d'avoir des plantes de cannabis. Tu n'as pas le droit de consommer.
Mais reconnais que la répression aujourd'hui, c'est un échec.
Excuse-moi.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à endiguer, si tu veux, ce trafic.
C'est un fléau mondial. La plus grande des drogues,
oui,
et puis après, grande
et après,
drogue,
quand tu légalises,
c'est l'alcool.
Attends, quand tu légalises, nous trois, on a vécu cette économie souterraine. Quand tu enlèves cette économie souterraine à ce milliard d'eux que représente le chiffre d'affaires aujourd'hui. Pour vous donner un ratio, McDonald's, le chiffre d'affaires de McDonald's en France, c'est 4 milliards. T'imagines qu'à 1 milliard d'eux, ce que ça représente comme économie?
Oui.
C'est colossal. Donc à partir du moment où tu légalises quelque chose, tu enlèves
du
revenu à des dealers.
Pas du tout.
C'est quoi l'étape d'après? Tu crois que le gamin qui a voulu prendre ton fils comme revendeur à 50 balles la petite barrette de shit, il va lui donner quoi? C'est légal, mais... tu peux l'acheter partout. Il va lui donner quoi demain? Un sac de crack, un sac de cocaïne?
Non, c'est pas même.
C'est des sujets sérieux de santé publique.
Tout à fait.
Et tout ce qui est toxique pour nos gamins, ben moi je suis farouchement opposé.
Il y a des pays au Canada,
on peut pas
aux
s'opposer
États-Unis,
à un vaccin
il y a des
qui soigne
États.
Et d'un autre côté dire le shit, il faut le légaliser, c'est pas possible.
Et puis on
c'est
inaudible. Encore suite au 32 16.
Je te dis que le Canada, les Pays-Bas l'ont légalisé et il n'y a pas une consommation qui a explosé de manière exponentielle de la part des locaux. Il y a des Franciliens, il y a des personnes qui vont se fournir là-bas.
Nous
parce
n'avons
que,
pas ben, la même c'est... population.
Oui, mais excuse-moi, c'est une économie qui existe et tu vas donner un statut à ces jeunes qui sont aujourd'hui des trafiquants. Parce que je ne parle pas du petit revendeur à la sauvette là, d'une barrette de shit au collège qui se fait plaisir pour se donner un peu des frayeurs. Je te parle des têtes de réseau qui gagnent des millions, qui sont à la tête de ça et qui sont à l'abri à Dubaï et ailleurs.
Au Maroc, ceux-là, hein, je te le dis, moi.
Pas au Maroc, à Dubaï, aussi, etc.
Ouais. Eh ben, eux, ou à Dubaï, oui. Ou à Dubaï.
C'est des chefs d'entreprise, du coup, qui deviennent, entre guillemets, respectables, qui ont une activité économique. On leur prend tant de pourcents de taxes, de TVA, de ci, de ça, qu'on envoie justement dans la prévention, dans l'éducation, dans la rénovation des écoles, parce que tu choisis où tu mets l'argent en fait. Tu vois, il y a un copain qui me dit un jour, il me dit Kaouter, tu es la seule qui peut le faire, tu es la seule qui peut monter dans les quartiers nord. Allez voir les gars, ils leur disent bon les gars, vous prenez de l'argent, donnez-moi 10%, moi il faut que je rénove les écoles.
Mais si tu penses qu'en légalisant un tarif sur le gramme du shit, c'est lutter contre ce milliard d'eux, c'est faux. L'économie, c'est normal, elle va toujours fonctionner. La cigarette, le prix, il est fixé en France, du paquet de cigarettes.
Oui.
Et pourtant,
excuse-moi,
combien de personnes reviennent de Dubaï et compagnie avec des cartouches et des cartouches.
C'est pareil pour l'alcool. C'est la plus grande dépendance, l'alcool. C'est en vente libre de partout. On te fait la publicité partout et tu deviens dépendant et c'est extrêmement compliqué.
L'intérêt qu'il peut y avoir aussi, c'est que les consommateurs de cannabis seront, parce qu'il faudra que ce soit cadré évidemment, ils fumeront de la très bonne qualité. Exactement. Ça c'est très, parce que moi combien de fois, moi je fume pas, hein, enfin je fume plus.
Bah, qu'est-ce bonne que qualité ou mauvaise qualité,
mais,
ça
dépend des neurones. Combien de fois les mecs ils disent putain le salaud il m'a filé de la merde, je vais le buter. Et attendez, je voudrais vous dire un truc. Alors ça, j'y tiens. Je sais pas dans quel journal vous avez eu ça.
Dans l'IB.
Vous savez, moi, je... Bon.
Vas-y.
Gérald Darmanin, farouchement opposé, fait de la lutte contre les trafics une priorité de son action. Oui. Je dis tout haut et tout fort, c'est faux. C'est un menteur.
Exactement.
C'est son deuxième mandat. Moi, je me bats depuis 4 ans sur le trafic de drogue.
Le crack, entre autres.
On a tout fait. On lui a envoyé des lettres. On lui a demandé de venir. Rien. Rien.
Oui, mais lui, quand il dit c'est sa priorité, c'est les forces de police qui sont sur le terrain.
Toujours.
Et qui le représentent là où tu es.
Mais
cela dit, c'est un bon exemple ce qu'elle prend d'ailleurs, Elina, parce que regarde, la colline du crack, on voit bien qu'à chaque fois, le problème, il est déplacé. Les riverains, même au cœur de l'été, l'autre fois, je les voyais, il y avait encore un reportage où il dit ça continue de se battre. Le soir, l'été comme l'hiver, on est confronté à la même chose.
C'est flippant quand tu passes là-bas.
Ça peut pas dire qu'il faut légaliser le crack. C'est pas ce que je dis.
On voit
bien que la lutte contre les stupéfiants, il faut trouver une autre approche que l'approche de la
mairie de Paris crée des salles de shoot. En fait, t'imagines le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on considère que les gens, on va les cacher. Hein,
non, c'est pas ça. Les salles de shoot, c'est pour essayer de prendre en charge ceux qui sont malades, ceux qui viennent. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des infirmières. Et on essaie de les récupérer et ensuite de les mettre en centre de soins. Attends, Elina, parce qu'on a Franck qui attend au 32-16, qui est avec nous, qui est dans le Lot. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous soutenez cette proposition des sénateurs socialistes?
Oui, tout à fait. Donc, je me présente, je suis Franck, j'ai 53 ans et je suis directeur de structure touristique depuis 30 ans.
Oui.
Donc, je suis confronté à employer des salariés jeunes et confronté au problème de la drogue depuis toutes ces années, puisque dans ces milieux-là, il y a beaucoup de drogue qui circule.
Oui.
En particulier dans la restauration, tout ça. Ah, oui. Et donc, moi, j'ai vu un peu les dégâts que ça pouvait provoquer. et j'ai vu aussi les bienfaits, puisque je suis un fan du Canada. Genre, je vais souvent au Canada, j'ai beaucoup d'amis au Québec. Et j'ai vu le bienfait de l'arrivée, de la légalisation du cannabis au Québec. J'y étais quand ça s'est ouvert. J'ai vu les files d'attente à Montréal. J'ai vu les Apple Store du cannabis, comme je les appelle, puisque c'est des boutiques impeccables où tout Starbucks, était présenté de façon incroyable. Et puis quand on voit le résultat, 4 ans après, c'était en 2018, d'après le gouvernement québécois, il n'y a pas plus de jeunes qui fument qu'avant. Il y en a moins qu'en France en termes de statistiques.
Ouais.
Ils fument de la qualité. Moi, mes amis qui sont là-bas, qui ont à peu près mon âge, commandent sur Internet, ils reçoivent chez eux, ils choisissent exactement la dose de ce qu'ils veulent de THC à l'intérieur par rapport à... Voilà, c'est très qualitatif. Ça ne les a pas mis à fumer plus qu'avant, pas du tout. On ne
peut pas laisser passer une promotion de drogue.
Mais c'est
désolé,
pas une promotion,
drogue, qu'elle soit de qualité ou de mauvaise qualité, mais reste une drogue.
Oui, mais le tabac et l'alcool, il y a une promo. Excuse-moi.
Exactement.
Sauf qu'on met boire de l'alcool avec modération, c'est tout.
Allez-y, Franck.
On
vend et on prend des taxes dessus.
C'est ça.
Oui,
c'est
mais en France, un quart de la population se drogue tous les jours avec des médicaments en vente libre.
Exact.
Prescrits par les médecins. Ils roulent dans des états seconds parce qu'ils sont sous Tranxène ou Valium.
C'est vrai.
Au Canada, vous n'avez pas le droit de rouler quand vous avez pris du cannabis. Par contre, eux, ils savent détecter si vous l'avez pris. Je crois que vous avez le droit de rouler 3 ou 4 heures après avoir fumé quelque chose. En France, un jeune, il se fait arrêter aujourd'hui. Au bout de 4 ou 5 jours, il est encore embêté parce qu'il a des traces. d'avoir fumé. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas capable.
Il y a des gens suicidés après avoir fumé du cannabis.
Mais l'alcool
accepter
aussi.
Ça.
On moi, je suis désolé. Avec
non, je me souviens, on était sur notre terrain de foot. On était, heureusement que tout le quartier, on était sur le terrain de foot en train de regarder le match. On a un de nos gars qui s'est allumé un joint. Il a ouvert le gaz, il a joué de la guitare, il a soufflé l'immeuble. Il a soufflé l'immeuble. C'est des méfaits dépressifs, ça n'avait rien à voir avec le joint.
Mais tu rajoutes en fait à une détresse.
En fait, tu rajoutes à une détresse. Des moyens d'aller encore plus loin dans cette détresse. Moi, je suis désolé, les gens ne font pas leur mettre la tête dans l'eau.
Je vais avec la fille d'un copain journaliste.
Oui, il a raison.
Je pars en camping.
On trouve facilement au bout de la rue.
Exactement. Et je découvre une jeune femme, directrice marketing dans une grande boîte que je ne citerai pas, 34 ans, qui est sportive, qui a plein de qualités. Son fils ne veut pas venir avec nous au camping. Et moi, ça m'étonne, tu vois. Donc, on part, mon fils, elle et moi. Fort heureusement, son copain nous a rejoints parce que moi, je ne savais pas qui j'avais affaire. Non, mais elle a bu 6 bouteilles de vin dans la voiture. J'ai conduit de Marseille à l'Ardèche. 6 bouteilles de vin devant mon fils. Elle est partie complète. Et là, j'appelle ses parents.
6 bouteilles, tu peux pas.
Et je découvre que cette jeune femme est alcoolique. Et donc, bon, complètement alcoolisée, je peux rien lui dire à part la calmer, monter la tente à 1h du matin en Ardèche, les sangliers. Enfin, tu vois, je sais pas faire ça. Donc, tu vois, grande immersion pour moi. Et le lendemain, quand on discute, elle me dit oui, Kauter. Je dépends de l'alcool, sauf qu'il y en a partout. Quand je vais faire mes courses, il y en a partout. Il y a de la pub partout. Et je rends hommage à une jeune femme qui s'appelle Nuncia, que je suis sur les réseaux sociaux, qui fait des maraudes et tout, etc. Elle a décidé depuis 18 mois d'arrêter de boire. C'est le combat de sa vie. C'est difficile. Oui. Elle est prise en charge.
Mais
elle
rate. Justement, est-ce qu'il faut pour autant créer d'autres dépendances?
Excuse-moi. Alors, la dépendance où toi, tu fais ton fric parce que tu es restaurateur, tu gagnes de l'argent, on paye des taxes, c'est bon. Mais d'autres dépendances, non. Je te l'ai déjà dit, je le dis tous les jours ici.
On peut monter que des associations en France aussi, hein. C'est plus simple, effectivement.
C'est la même règle pour toutes les dépendances. Soit c'est, tu vends des cigarettes, tu vends de l'alcool.
J'en vois pas.
Et l'alcool, je considère vraiment que c'est la dépendance la plus dévastatrice.
Merci de votre témoignage, Franck, avec l'exemple canadien. Dans un instant, Laurent, il nous appelle de Tassin-la-Demi-Lune, c'est du côté du Rhône. Il est cuisinier, il est contre la légalisation. En plus, il a un exemple personnel.
Ah bah oui,
son fils
dans la restauration,
est tombé dedans quand il était au lycée, dans le cannabis. Et il va nous raconter ce témoignage, son exemple. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules en direct tous les jours, en plein mois d'août, nous sommes là parce que la vie ne s'arrête pas, la société continue d'avancer avec ses défauts, ses qualités, qu'il y a toujours matière à discuter entre nous dans les GG, avec vous bien sûr, avec Elina Dumont, l'intervenante sociale, avec son franc-parler, le franc-parler de Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, le franc-parler de Stéphane Manigold, aussi restaurateur à Paris, et la franchise aussi de Laurent, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Bienvenue Laurent. Bienvenue.
Alors, bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis comme le proposent les sénateurs alors socialistes?
Moi, je suis tout à fait contre, puisque là, j'ai témoigné pour ma famille, quoi, et pour les familles qui ont été détruites par ça.
Oui.
Parce que ça détruit le milieu familial. Mon fils, il était dans un lycée, s'est protégé, un milieu sportif, puisqu'il était en sport-études. Mmh. Il était dans la natation et il s'est retrouvé en contact avec des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs et qui lui ont offert de ce milieu-là, quoi, de fumer. Et puis il est tombé dedans, il fumait de plus en plus et puis nous on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et puis petit à petit, il a fait du deal pour payer sa consommation. Et c'est un engrenage qui fait que petit à petit, on perd notre enfant, il est déscolarisé et il a plus de volonté, il fait plus rien, il fait que fumer, il se lève le matin, il fume. Il est pas dans son état normal, il est pas dynamique, c'est une loque. Mmh. C'est comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et quand il en a pas, il est énervé, il est sous tension, il est il est comme ça. Et les associations qu'on a contactées, parce que ça fait 3 ans et demi que ça dure, et qu'on endure ça, ça fait 3 ans et demi qu'on dit qu'il faut faire quelque chose, le désintoxiquer, le prendre en charge psychologiquement, psychiatriquement peut-être. On tombe sur des gens qui nous disent tout le temps, faut que le patient adhère. Comme les alcooliques, pareil, exactement pareil. C'est-à-dire que si la personne, elle est malade, elle se rend pas compte qu'elle est malade. Mais alors, si on attend que la personne soit vraiment tout à fait détruite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des soins sur quelqu'un qui est déjà détruit. Ça ne sert à rien de faire des soins sur des gens qui ont détruit leur vie. Parce qu'ils auront des regrets toute leur vie. Après, ils vont se dire, j'ai loupé ma vie. Et ils retomberont peut-être dans d'autres, dans des dépressions, dans des trucs comme ça.
Quel âge est votre fils ?
Il a 17 ans. Il va avoir bientôt 18 ans. Il est placé il est dans un placement judiciaire. Parce que on a été obligé de le faire tomber, de le dénoncer pour détention de drogue.
Vous avez très bien fait.
Exactement.
Oui, mais le truc, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est pas normal.
Il y a rien derrière, il y a rien. Là, il y a un placement judiciaire, ça commence à bouger. Mais en 3 ans et demi, on n'a rien fait, on a galéré pour le prendre en charge. Les médecins nous disent, il n'y a pas de place, il n'y a pas de
prise en charge pour ça. Laurent, c'est votre démonstration et votre témoignage est prenant. Effectivement, parce que ici, autour de cette table, on a, je pense, tous été confrontés à ce genre de problème avec, de manière plus ou moins proche. Croyez-moi, Laurent. Mais vous voyez bien que votre fils est tombé dedans. D'abord, quand, à 16 ans, à 17 ans, on a toujours des failles, des problèmes dans sa tête, on se cherche, et il est tombé dedans alors que c'est illégal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on voit bien que...
Mais si c'était légalisé, il y aurait beaucoup plus de tentations. Vous pensez aux familles, aux gens fragiles.
Les enfants,
qui boivent de l'alcool ou qui fument. Ces gens, ils sont détruits.
Laurent,
on n'arrive plus à en faire quoi que ce soit.
Non, Laurent, pour acheter des cigarettes, moi je me rappelle, mon père fumait et nous envoyait acheter des cigarettes quand on était enfant. Et le tabagiste, bravo à lui, bien qu'il nous connaissait, refusait de nous donner des cigarettes. Exactement. Donc en fait, il est interdit en France qu'un enfant, que quelqu'un qui ne soit pas majeur, achète de l'alcool et du tabac. Et donc si demain cette loi passe pour légaliser le cannabis, il en sera de même. Et moi je pense qu'une activité légalisée est beaucoup plus encadrable, qu'on peut faire de la prévention, parce qu'encore une fois, comme nous l'a rappelé Alain, on peut pas faire de la prévention dans des collèges et dans des écoles,
puisque
dans des lycées,
illégal.
Puisque c'est illégal. Mais si demain, on en fait des préventions sur le tabac dans les écoles,
et je qu'est-ce qui va se passer avec les trafiquants? Vous savez ce qui va se passer? Parce que l'État va autoriser siphonner. Un THC à combien? Et que vont faire les contrebandiers? Eh ben, eux, ils vont sélectionner, ils vont faire leur petite pharmacie.
Ils vont pour les cigarettes, monsieur.
Le taux de THC, et vous serez de plus en plus...
Non, mais il faut que ce soit encadré.
Oui, mais ça sera... Je comprends, mais ça peut être étudié avec des médecins, il y aura des contrôles dans les coffee shops. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce qui est vendu, c'est terrible.
C'est de la merde.
Souvent, ça bombarde plus la tête qu'autre chose.
Mais ça reste de la merde.
Oui, non, mais bien sûr que ça reste de la merde, mais comme la cigarette reste de la merde, après, ce qui fait le poison... C'est le dosage.
Tu perds pas le contrôle.
Quand tu fumes une cigarette,
tu perds pas le contrôle.
Mais monsieur, Laurent, si votre fils était tombé dans l'alcool, monsieur, je suis désolée parce qu'en plus c'est votre fils. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise de parler de ça parce que moi, je suis maman et je me mets à votre place et c'est extrêmement douloureux et j'ai pas de solution. J'ai été éducatrice et j'ai vu des tas d'enfants tomber et dans le shit et dans l'alcool. Et en fait, la problématique reste la même. Quand il y a une dépendance, que ce soit du cannabis ou de l'alcool, il y a une dépendance et effectivement, les mesures de prise en charge demandent un volontariat du malade, ce qui est très rarement le cas, et il y a surtout pas assez de place dans nos cliniques, dans nos hôpitaux pour s'occuper de ce type de dépendance. Donc ça, vous avez raison. Mais si c'était l'alcool qui était en vente libre, votre fils, s'il n'a pas sa dose d'alcool, il est violent aussi. C'est ça qui est malheureux.
Laurent, je vous remercie de ce témoignage et j'espère que votre fils va s'en sortir. Bon courage à vous. Elina Dumont.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, ça s'est passé à 16 ans. Il faut savoir que le but d'un dealer, et comme je l'ai toujours dit ici, un vrai dealer ne se drogue pas. Mm. Je vous parle d'un vrai. Mm. Les revendeurs se droguent.
Ils savent la merde qu'ils
vendent. Attends, écoute-moi jusqu'au bout.
Non, c'est le business.
Et en fait, le but d'un dealer, c'est de mettre le plus de saloperies possible pour que tu sois addict. Par exemple, le crack. Moi, à mon époque...
Qui coûte 10 euros, une dose de crack.
Oui, hein. Mais moi, je te parle à mon époque, tu sais bien que j'ai plus d'un demi-siècle. Moi, à mon époque, il n'était pas autant addictif. Aujourd'hui, même si je suis resté pendant 4 ans, ça veut pas... Mais aujourd'hui, ils te mettent des saloperies que là, maintenant, t'en prends 3 cailloux, ça y est. C'est ça le but d'un dealer. Alors que c'est très, très encadré... Là, ils ne pourront plus mettre de verre dedans.
Stéphane Manigault. Je vais revenir sur le même sujet. Le protoxyde d'azote, c'est encadré, c'est en vente libre.
Peut-être qu'ils vont l'enlever.
N'importe qui peut l'acheter. Et pourtant, aujourd'hui, nos mômes, il faut voir les mouvements qui sont en train de s'opérer. Là, on parle comme des gens des années 80. C'est-à-dire que le shit, c'est un fléau, c'est machin. Oui, bien sûr. Mais nos gamins, ils sont passés à autre chose, là.
Depuis le Covid,
pour certains, je termine, c'est en vente libre, c'est disponible. Oui. Donc, ils ne nous ont pas attendus.
Pas sur les plages de Marseille.
Et se péter la tronche avec d'autres substances licites pour le coup, malheureusement.
Les minots ne boivent que de la bière.
Arrête de m'opposer l'alcool et le shit. Dans les deux cas, c'est une addiction. Dans les deux cas, c'est mauvais.
Je ne les oppose pas. Au contraire, je dis que c'est pareil. Je dis qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ne boivent plus aujourd'hui, y compris à la plage. Ils ont chacun deux packs de bière, donc je ne citerai pas la marque, une grande marque, et ils boivent ça au soleil sous 38 degrés, et ça gêne personne. Moi, ça me gêne que des enfants qui ont entre 14 et 17 ans, personne ne boit.
L'alcool est interdite, on vend. Oui. Tiens, on revient sur le sujet. Oui. La vente d'alcool est interdite aux mineurs.
Oui,
nous, demain, on vend de l'alcool à un mineur,
et pourtant,
tu fermes, fermeture
dans
administrative.
Dans les supermarchés et dans les épiceries de quartier, etc., ils achètent leurs deux packs de bière et ils vont au bord de la plage
devant des enfants et ils ne boivent.
Je ne cautionne pas, je te dis que c'est pareil, dépendance.
Le chiffre qui est parlant, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'État français dépense 570 millions d'euros contre le cannabis. 7 sur 10 euros, 7 vont à la répression. Si tu légalises, tu inverses le chiffre, tu mets plus 7 sur la répression, mais puisque tu récupères des taxes et que tu deviens commerce, tu peux mettre à ce moment-là 7 ou 8 sur la prévention et sur le soin. Si tu veux, comme aujourd'hui, même moi qui ai fumé pendant 20 ans, qui à la fin fumé un paquet par jour, à un moment je me suis arrêté, parce que des cigarettes, mais si tu veux aujourd'hui, l'État, même le non-fumeur aujourd'hui, il participe via la sécurité sociale, à soigner ceux qui ne fument pas. On est d'accord là, avec les impôts, on finance aussi la police qui participe à la répression. Mais les trafics d'année en année sont plus importants et ça génère de plus en plus de chiffres d'affaires, le cannabis. Donc à un moment, il faut inverser le paradis puisqu'on n'arrive pas à le faire baisser.
Et pareil pour l'alcool, toutes les maladies qui sont liées à l'alcool.
On peut essayer. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un test? Il y a des États aux États. Tous les États américains ne sont pas passés à la légalisation du cannabis.
Et regarde,
certains l'ont fait. Donc on peut faire peut-être une période test.
La Suisse a une formule intermédiaire qui est tu peux l'acheter pour de l'encens, tu peux l'acheter pour élever tes plantes chez toi.
Oui.
Bon, après que tu le fumes ou pas, en gros, l'État ferme un peu les yeux, ils te le vendent, mais ferme les yeux.
Ce qu'on appelle thérapeutique en Suisse.
Pourquoi être hypocrite? Laurent vient de te dire là que son fils est tombé, il était dans un milieu fermé, en sport, études, natation. Ce petit était voué à une carrière sportive, peut-être de haut niveau. Et là, il est tombé en milieu fermé, préservé, voilà, assez chic, entre guillemets.
Malgré ces nombreux exemples, tu es pour...
Oui, parce que c'est pas encadré. Et aujourd'hui, ce monsieur peine à faire prendre en charge médicalement son enfant. Et c'est là où je suis d'accord avec Alain, où en fait... Tu inverses et les 7 euros vont dans la prévention et on aura des soins.
On peut essayer, on peut faire une
soigner ses enfants.
C'est des addictions dont il est difficile de s'en sortir.
Ouais, le cannabis, n'est pas impossible.
La cocaïne, le crack,
l'alcool.
Une fois que tu as mis le pif dedans,
l'alcool.
Ou la bouche dans ce
Stéphane.
Joint, tu as
attends.
Du mal à t'en sortir.
Mais l'alcool
Stéphane,
aussi
attends.
Dedans.
Mais je
Stéphane.
Peux te mettre mais ce
Écoute.
Que tu veux si ça te fait plaisir.
Non,
je te le mets, bien sûr que c'est une addiction. Je te parle des addictions avec un S. Tu vois, moi je suis pas SOS racisme ou SOS addiction. Je mets un S, moi.
Oui.
Et toutes les addictions sont mauvaises.
Oui.
Il y a le plaisir.
Certaines sont légales, certaines ne sont pas légales.
Voilà.
C'est pas l'addiction, c'est le produit.
Moi, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me pèse le plus, et que ce soit, mais partout en France, même, parce qu'on n'en parle pas tout le temps en grande gueule, c'est normal. Mais tu peux regarder dans la presse, moi je n'en peux plus des balles perdues de gamins de 11 ans, 10 ans. Bah, toi, tu dois en savoir autant que moi. Je n'en peux plus. Tu verrais le nombre de mamans qui se battent pour dire à leurs gamins, venez. Mais c'est. Et puis tu sais, quand ils font comme ils disent à Marseille, bon, à Bobigny on dit pas ça, mais ils font des barbecues.
Le règlement de compte aujourd'hui qu'il y a.
Mais ça n'existera plus.
Je vous invite à vous poser la question suivante.
C'est quoi
1,2 milliard, c'est le chiffre d'affaires. Imagine, tu enlèves tout cet argent de cette économie souterraine. Tu l'enlèves quelque part si tu légalises.
C'est comme la cigarette. Il restera des trafiquants.
Rester des miettes.
Il va en rester évidemment. On posera la question tout à l'heure à David Lebars. Il sera face au GG. C'est le président du syndicat. Des commissaires de police, il sera dans les grandes gueules et nous lui demanderons justement s'il est pour ou contre cette légalisation. Il sera à midi moins 20 avec nous, avec les grandes gueules. Tiens, dans un instant, le journal du off, Il y a une affaire qu'il va falloir suivre, c'est l'affaire État-EDF. On va vous parler de l'EDF qui réclame 8 milliards à l'État parce que l'État a gelé les tarifs de l'électricité. Il aimerait bien récupérer son argent. Mais d'abord, le cannabis, on l'égalise, oui ou non? On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Ça va être partagé, tu vois.
C'est très partagé, regardez. Vois, c'est... Oui, 50,3, non, ah ouais. 49,7.
C'est bien, les gens.
Mais ce qui mérite un vrai débat oui, aujourd'hui qui fracture la société. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Stéphane Manigold, restaurateur, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, sera tout à l'heure avec nous à midi moins 20. Tout à l'heure à 11h, on a un GG 7 et match autour de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est un ministre en échec, Gérald Darmanin, l'histoire de l'imam Iqiyoussen? On a Sacha Houlier, le président de la commission des lois, qui dépose une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers, mais Gérald Darmanin est contre. On a le fiasco du Stade de France, et puis on a la lutte contre le cannabis dont on vient de parler à l'instant, qui ne réussit pas pour le moment. Donc est-ce qu'on a un ministre en échec? On a une équipe, oui, avec Kaouter Ben Mohamed et Elina Dumont, et on a un seul contre tous.
Stéphane Marigot. Les amis, restez à l'antenne parce que
ça va chauffer avec la Marseillaise. Il n'est pas en échec. Donc
c'est mieux qu'un classico PSG-OM.
Rendez-vous au 32-16 avec vous tout à l'heure à partir de 11h. En attendant, on y va pour le journal du off et le quiz des GG. Et on accueille Paul Lassen, notre coproducteur. Bonjour Paul.
Salut à tous.
Avant le quiz des GG, on a ce bras de fer dans le journal du off qu'il va falloir suivre, bras de fer politique qui s'engage entre l'État et EDF. En fait, c'est EDF qui est remonté contre ce qu'il appelle les modalités du bouclier tarifaire et qui va réclamer une indemnité de 8 milliards d'euros auprès de l'État. EDF a déposé un recours contentieux auprès du Conseil d'État, parce que pourquoi le groupe est contraint de vendre sa production à prix cassé au moment où l'électricité atteint des sommets sur le marché de gros. Il vend à prix cassé, pourquoi? Parce qu'il y a le bouclier tarifaire et qu'on a demandé à EDF d'être en deçà, parce que sinon la facture électrique pour l'ensemble des ménages, ça aurait été plus 35%, voire une entreprise qui va attaquer celui qui va devenir son actionnaire principal, parce que l'État va sortir 9 milliards d'euros pour renationaliser EDF. Stéphane Manigold, c'est quand même pas banal cette histoire, quoi.
Mais
tu comprends le raisonnement d'EDF ou pas?
Je comprends. Attention, aussi, c'est que la France, quand on a un champion comme Total, totalement dépendant, qui gagne à peu près ce que EDF perd, on va lui taper dessus, faut taxer, faut des super profits. Une fois qu'on nationalise une entreprise comme EDF, c'est plafonnement pour le dirigeant de 450 000 euros, parce que faut pas déconner, la performance à un moment, ça a ses limites, alors que les autres entreprises du CAC 40 sont performantes. Et l'argent public, parce que quand on dit que l'État va payer 8 milliards 34, c'est nous.
Oui, hein, ce sont nos infos.
Il faut quand même considérer que c'est nous. Donc si tu veux, t'as cette espèce de paradoxe français qui consiste à taper sur celui qui a et à se dire, tiens, bah là, EDF devrait nous ouvrir les yeux sur le fait qu'on, quand on a des super champions, faut les préserver, faut les accompagner et faut pas les étrangler. Et EDF, avec 8 milliards 34 de dettes, bah c'est nous qui allons payer. Et ben moi je préfère une société comme Total aujourd'hui qui gagne du pognon, ils sont indépendants, ils coûtent rien à la collectivité et ils reversent en plus 30 centimes sur le carburant. Merci. À côté, 8 milliards.
Tu remets EDF, EDF a été contraint au nom du
bouclier tarifaire. Mais je ne comprends pas d'ailleurs le sujet.
Par ton raisonnement,
je suis assez époustouflé parce que je rappelle quand même que l'État a des participations auprès d'EDF à hauteur de 83,88%. Donc de toute façon, quand tu es actionnaire d'une société, tu es responsable des dettes à hauteur de ton actionnariat. Donc de toute façon, l'État, donc nous, nous sommes responsables
c'est
des dettes
dette.
À hauteur de 80 ans.
Mais il n'y a pas de dette, c'est une dette qui est créée, c'est pas une dette. D'abord, je suis fascinée.
Comment elle est créée,
la dette ? Je viens à dire ici devant toute la France que je suis fascinée par ton raisonnement qui dit que le patron d'EDF, une entreprise quasiment publique, qui gagne 450 000 euros, c'est pas assez pour la performance, mais qu'un pompier volontaire qui va se jeter dans le feu pour nous soigner, pour nous sauver, pardon, 8 euros, c'est déjà pas mal parce que c'est une vocation.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ce deux poids, deux mesures m'horrifie, en fait.
C'est pas ce que j'ai dit.
Il a pas dit ça, Stéphane.
Ah non, je peux pas te permettre. Non, non, Kauter. Tout à l'heure, tu as dit parallèles. Je les accepte, celui-ci, je l'accepte pas.
Tu as dit que les pompiers.
Parce que moi, j'ai été réserviste et je gagnais zéro. Oui. Et j'étais réserviste civil à la GSOSD. Donc, j'ai pas de sens sur ce sujet. Donc, ton parallèle entre une entreprise cotée qui emploie 120 000 salariés, qui aujourd'hui perd 8 milliards d'euros, c'est-à-dire nous qui allons éponger, j'accepte pas ce parallèle. Parce que les 8 milliards qu'on va éponger, oui. Bah peut-être qu'on pourrait les mettre sur les pompiers pour que le pompier qui gagne que 8 euros, tu vois, oui, ça c'est aussi un raisonnement de chef d'entreprise constructif, et bah peut-être que le pompier qui a 8 euros, si on avait passé c'est foutu 8 milliards à éponger, bah peut-être que le pompier, on pourrait mieux le payer qu'on pourrait embaucher.
Peut-être que si on légalise le cannabis, on pourrait aussi avoir des taxes pour mettre le pompier aussi.
Mais tu nationalises la France.
Quoi?
Mais tu imagines ce que c'est, 8 milliards?
Oui, je sais ce que c'est,
mais
8 milliards.
C'est énorme.
Oui.
Mais c'est astronomique, 8 milliards.
Oui.
Donc tu peux en payer des pompiers, et tu peux augmenter, France, tu peux les loger, tu peux les nourrir, tu peux tout
et
faire.
Et la France,
hein,
va investir 9 milliards aussi chez EDF. Donc à un moment donné, c'est du gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant, c'est pas toujours le privé qui va tout remporter, je m'excuse.
Mais attends, Kauter, si les 450 000 euros plafonnés aujourd'hui, du PDG ça attirait du monde, ben ça serait. Hein. Aujourd'hui, les cabinets de chasseurs de recrutement, ils ont contacté, on n'a pas les noms, un certain nombre de grands dirigeants. Ils ont tous dit, non merci, ça ne nous intéresse pas.
C'est pareil pour les
pompiers. Il y a un marché qui est mondial. EDF, c'est une entreprise mondiale. C'est un marché mondial. Oui. Il faut intégrer aussi que nos cadres, nos dirigeants, eh bien, ils s'exportent. Et c'est tant mieux parce que nous avons des dirigeants de qualité. Mais à un moment, quand tu as un dirigeant de qualité, si tu veux qu'il y ait de la performance, bah, faut payer. C'est comme les salariés, faut les payer.
Exactement. Il y a un marché de l'emploi aussi qui est concurrentiel, qui le redevient, et merci mon Dieu que ça le redevienne. Et les gens ne peuvent plus vivre aujourd'hui avec le SMIC ou avec des 8 euros de l'heure d'indemnité lorsqu'ils sont sur le front et pas lorsqu'ils sont appelés, comme nous l'a dit la dame par rapport à son
genre. Tu mélanges deux choses. Non, les 8 euros de l'heure, c'est en complément d'un revenu. C'est des gens qui travaillent à la base et qui sont
revenus au cœur.
Je reviens au cœur du truc, en fait. C'est que,
en créant le bouclier tarifaire et en empêchant EDF de vendre son électricité au prix où elle devrait le vendre.
Eh ben,
aujourd'hui, on a
national.
Créé de la dette. Et on a créé un déficit.
C'est une révolution si demain tu appliques le vrai prix.
À EDF,
c'est 300%.
Qui dit, vous me devez 8 milliards.
Enfin, Alain, la réalité des chiffres, c'est quoi? S'il n'y a pas le bouclier énergétique.
C'est plus 35%.
Non, plus 300%. Tu prends ta facture, tu fais fois 300%. Voilà. Voilà la réalité du bouclier énergétique. Donc moi, je suis plutôt fier que la France ait protégé l'ensemble des citoyens français, notamment les plus démunis, parce que faut aussi le dire, les riches, comme tu dis, eux, ils ont des solutions énergétiques qui, à basse consommation, les plus pauvres, moi j'en faisais partie, mon père il avait un vieux poêle à mazout, à chaque fois qu'il l'allumait pour nous chauffer, j'avais l'impression qu'il allait nous exploser à la gueule. Mmh. Et franchement, moi, ça me faisait peur. Dès qu'on le mettait, c'était censé te chauffer, mais le truc, il t'envoyait des flammes, t'avais l'impression qu'il allait t'exploser dans la tronche. Donc, en réalité, ceux les plus démunis, le problème du logement, le problème de la performance énergétique des logements sociaux, c'est un vrai sujet. Jean-Louis Borloo l'avait mis sur la table. Aujourd'hui, on le voit, dans les quartiers sensibles, dans les quartiers difficiles, dans les logements sociaux, ce sont des vrais passoires énergétiques. Et donc, aujourd'hui, on paye très cher ce manque performance énergétique. D'isolation dans ces logements. Et je vais aller à Marseille, tu vois. Marseille, vous avez une chose extraordinaire qui s'appelle le soleil. Mm-hmm. À quand des panneaux solaires dans
Merci.
Le sud? À quand des panneaux solaires dans le sud? Il y a du soleil toute
je
l'année. Il fait un temps
Écoute,
magnifique.
En 2013,
l'Allemagne, il
n'y
a pas de soleil, ils ont des panneaux solaires partout.
C'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Allemagne quand j'étais plus jeune sur des séjours avec les jeunes, justement.
Les échanges scolaires?
Non, non, les échanges pas extrascolaires, mais des échanges internationaux. Peu importe, avec l'OFAJ, l'Office franco-allemand de la jeunesse. J'étais fascinée de voir que dans un pays où il y a trois jours de soleil, il y a des panneaux solaires partout. Et en 2013,
l'effet d'albédo.
Entre 2010 et 2013, le quartier où j'habite depuis 2008,
albédo,
a été complètement rénové. Construction du MUSEM, du FRAC, de la Villa Méditerranée, etc.
Mais
en fait, il n'y a pas un panneau solaire. Et donc, j'ai gueulé. Et ils nous ont dit, non, mais tu comprends, par rapport aux normes... Mais attendez, on est dans une ville où il y a trois jours de pluie par an.
Et en plus, c'est un toit plat, le MUSEM. C'est un toit plat.
On pourrait non seulement... je veux dire, suffire la ville, mais carrément, je suis très sérieuse, suffire la ville, on pourrait la revendre, l'électricité. Sauf qu'il n'y a pas de volonté politique. Donc, sur ça, je te soutiens à 3000% et j'applaudis dès demain.
Allez, on y va pour le quiz des GG.
C'est un vrai classique.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Allez, on y va, les petites questions qui tournent autour de l'actualité. Monsieur Paul Lassen, c'est parti, c'est à toi.
Ouais, pour apaiser les tensions là, entre vous, les GG, on va parler un peu d'amour. Non, toi, Elina, de bédo, toi, quand même. Un peu de bédo pour tout le monde. Non, on va parler d'amour ce matin. Avec cette étude que nous dévoile le site de rencontre Mythique. Du coup, question pour vous, les GG.
Ça, c'est un truc avec les jambes.
Non, pas du tout.
C'est pas la... Il a pas des mains à la
cuisine. Ah,
sur 100 Français interrogés, quel accent régional a le plus la cote quand on rencontre quelqu'un?
Non. Oh non.
Le sud-ouest.
C'est le sud-ouest.
Eh oui, c'est vrai.
Voilà, c'est les Basques qui ont la cote en premier. En deuxième, le sud-est, les Marseillais. L'accent parisien.
Les Marseillaises, alors.
Ou Marseille, oui. En fonction de.
Non, mais Caouter,
tu drague.
Elle incarne Marseille, elle toute seule.
Ensuite, c'est l'accent parisien. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un accent, mais évidemment.
Ah, si, mais moi, on me dit que je l'ai, moi.
Toi, t'es une vraie titi parisienne, Elina. Oui, et à votre avis, qui est dernier?
Bon, les Alsaciens.
Les ch'tis.
C'est chez moi, c'est ça.
Défaite pour les nordistes, non?
Ils sont derniers
du classement.
Ah, oui. L'Alsace
se porte un peu
charme.
Mieux que le Nord. Et quel accent étranger a le plus la cote auprès
italien.
Des Français?
Ah, bah oui, espagnol, italien.
Voilà, italien en 1, espagnol en 2, en 3.
Portugal?
Non.
Américain?
Voilà, anglais, américain qui sont 3e et 4e. Et en 5e, à votre avis.
L'accent étranger qui a le plus la cote?
Oui. La Tunisie?
Non.
5e.
Ça doit être un truc bizarre, je pense. Pour qu'ils nous disent ça.
La Suède.
Non.
L'Autriche.
Non. Des francophones.
C'est des francophones.
Les
Canadiens.
Ouais. L'accent québécois à la côte.
Ah, c'est vrai, j'aime bien mon sens.
Après amour, on va parler un peu de musique ce matin, puisqu'on a appris cette semaine les chansons les plus écoutées, les plus utilisées sur TikTok. Mais qui arrive en tête du classement?
Je vous
fais trois propositions. Voilà la première. Ce rêve bleu, les aventures d'Aladin, Jafar, Jasmine.
Ça, c'est la musique de sonnerie de Kaouter.
C'est exactement ça.
Quand on l'appelle, c'est ce rêve bleu.
Vas-y.
Deuxième proposition.
Allô, maman, bobo.
Ce sont les musiques les plus utilisées sur TikTok.
Il y a
c'est
trois propositions.
D'accord.
La troisième.
Et la troisième.
Oh, j'ai rêve bleu.
Moi, j'ai
Allô, maman, bobo. Ça, j'en sais strictement rien, parce que je suis pas sur TikTok.
Vous êtes très nuls, puisque c'est la dernière. Yousso, The King Can and the BBQ Show. C'est un titre qui date de 2004, mais qui s'offre une seconde jeunesse grâce à TikTok. C'est plébiscité par tous les utilisateurs pour accompagner leurs vidéos. Loin derrière. Parce que c'est vraiment.
C'est le Dick Neck de la musique, quoi. C'est avec Dick Neck, quand c'est sorti, ça n'a pas marché.
C'est un peu ça,
c'est devenu le Dick Neck de la musique.
À la deuxième place, on retrouve ça.
C'est
les Edison Lighthouse qui chantent
la petite maison de la prairie.
Donc c'est des chansons assez anonymes au final. Enfin, en troisième place, c'est une chanteuse qui est un tout petit peu plus connue.
Ah oui. Kate Bush.
Absolument. Running Up That Hill.
Ça, c'est parce que c'est dans Stranger Things.
Oui, voilà, ça a été remis au goût du jour avec la dernière saison de la série.
Tu peux le redire en anglais, comme ça tu vas entendre ce que c'est qu'un accent parisien en anglais.
Pas du tout, je ne répéterai pas. Mais j'ai une question pour toi, Stéphane, même si je sais que tu connais la réponse, donc laisse répondre nos amis. Pourquoi la chaîne Domino's Pizza a-t-elle décidé de fermer ses franchises et de quitter l'Italie?
Parce qu'elle faisait pas assez de chiffres
d'affaires. Elle les a pas convaincus.
Non, c'était pas bon, elle gagnait pas assez de thunes.
Alors, je sais pas, mais va vendre des pizzas aux Italiens.
Mais
la gastronomie italienne, ils viennent de nous passer dessus. Alors tiens, tu me tends la perche, là. J'ai fait un tweet justement. Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des PME TPE, il serait temps que pour nos consommateurs, on redéfinisse clairement le mot restaurant. Ras-le-bol de voir restaurant à tout va, n'importe où, n'importe quand, chez n'importe qui. Il faut que le consommateur ait de la transparence. Et bravo mes amis italiens, une fois de plus, ils ont montré que c'est un grand pays de la gastronomie. Puisqu'en Italie, quand tu regardes sur une carte, quand le produit il est industriel ou surgelé, tu dois le marquer.
C'est écrit.
En France, quand tu fais bien, tu dois sortir la fanfare et tu dis « Regardez, je fais maison ». C'est pas normal. La normalité, c'est de faire bien.
Et pourtant,
bravo les Italiens.
Ils étaient très ambitieux puisqu'ils sont arrivés en Italie il y a 7 ans. Et leur but, c'était d'ouvrir plus de 800 magasins d'ici à 2030. En effet, ils sont,
pour moi, c'est inconscient, c'est
ils sont endettés à milliards. Presque. Et il y a notamment un truc, Alain, et je sais que ça va te décevoir. Ce qui a beaucoup choqué les Italiens, c'est qu'une des pizzas qui
était l'ananas.
C'était la pizza à l'ananas. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Alain Marchal est fan de la pizza à l'ananas.
Mais tu vois, il y a un truc extraordinaire dans cette histoire, c'est que la mondialisation, et le Covid a participé à ça, que la mondialisation, elle s'essouffle.
Oui.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Retrouvons. Moi, j'en ai marre de boire le même café dans le monde entier.
tu vois, les petites dosettes là. Dans le monde entier, tu bois le même café. Ça n'existe pas. Il y a des saisons, y compris pour le café. Tu peux pas boire le même café tout le temps. Nous, nos cafés, ils sont de saison. Et ben, quand il y a plus de café et que la saison est terminée, on passe à un autre. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et la nature est bien faite. Tu peux lui faire confiance.
Pour
ça.
Merci, monsieur Paul.
Merci à tous.
Paul Lassen pour ce quiz.
C'était pour toi.
On se retrouve pour la suite des grandes gueules dans un instant. Un GG7 et match avec vous. Gérald Darmanin est-il un ministre en échec? On vous attend au 32-16.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.